Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
J'ai entendu une détonation, je me suis retourné, c'était à 10 mètres de moi, j'ai vu un mec au sol, un mec derrière, et il lui a mis deux balles dans la tête en fait. Il est parti en marchant.
Un homme tué et une femme grièvement blessée en plein jour devant un hôpital parisien. Le tireur en fuite et des témoins choqués. Les toutes dernières informations sur ce possible règlement de compte dès le début de ce journal. Ils doivent permettre de se dépister partout, au travail comme à la maison. Les autotests sont arrivés dans quelques pharmacies et ils se vendent comme des petits pains. La réouverture des terrasses, pas encore chez nous, mais de l'autre côté de la Manche, les Anglais se ruent pour assouvir leur soif de liberté. Nous irons à Londres. Davantage d'argent pour les soignants, 500 000 de personnels paramédicaux des hôpitaux publics vont bénéficier d'une importante revalorisation de leur salaire. 7 mois de bras de fer médiatique et judiciaire et au final un accord, Suez a fini par céder aux avances de Veolia pour créer un géant mondial de l'eau et des déchets. Au sommaire également, l'enlèvement de 7 religieux dont 2 Français hier en Haïti par un gang qui réclame une rançon. L'ouverture du procès de la BAC Nord de Marseille, 18 policiers jugés pour avoir racketté des dealers et puis le PSG privé de son capitaine. Marquinhos forfait demain pour le quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. La météo, elle sera dégagée demain sur presque tout le pays, mais les températures resteront bien froides avec la généralisation à l'ensemble du territoire des gelées matinales, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en légère baisse, moins 0,13% à 6161 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Citroën a dévoilé aujourd'hui une nouvelle berline haut de gamme, la C5X, modèle qui doit relancer les ventes à l'international de la marque au chevron. Pour en parler, Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Vincent Cobé, le directeur général de Citroën. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et tout d'abord donc cette scène ultra-violente cet après-midi dans le 16e arrondissement de Paris. Un homme a été tué par balle et une femme grièvement blessée devant un hôpital. L'hôpital Henri Dunant, géré par la Croix-Rouge. Jean-Gabriel Bourgeois, c'est en tout début d'après-midi que des coups de feu ont retenti dans ce quartier habituellement très calme.
Oui, c'est vers 13h40, selon les premiers éléments de l'enquête, qu'un homme sur un scooter s'est arrêté et a ouvert le feu devant l'hôpital Henri Dunant. Les tirs atteignent 2 personnes. Un homme âgé de 34 ans, sans lien avec l'hôpital d'après la Croix-Rouge, est décédé. Et une femme chargée de la sécurité de l'établissement est gravement blessée. Juste en face de l'hôpital, Arnaud tient le bistrot La Garçonnière. Il raconte à Marion Dubreuil qu'il venait de vendre un café à emporter à l'une des 2 victimes.
Je vendais des cafés, j'ai entendu une détonation, je me suis retourné. C'était à 10 mètres de moi, j'ai vu un mec au sol, un mec derrière, et il lui a mis 2 balles dans la tête en fait. Et il est parti en marchant. Ah, le suspect, je l'ai vu partir comme un mec lambda, comme si normal quoi, avec un sang-froid à toute épreuve quoi. Il a tiré, il est reparti en marchant quoi. Il avait une capuche et un masque, mais il n'était pas de casque. J'ai vu son arme, mais j'y connais rien, c'est un pistolet classique quoi. Il y avait un monsieur sur le scooter qui l'attendait. Il est monté dessus, ils sont partis. La scène, elle s'est passée devant l'hôpital et devant l'entrée de service de l'hôpital où il y a toutes les voitures. Et la nana qui s'est pris la balle, c'était à l'intérieur. C'est exactement à l'endroit, à l'entrée de l'endroit où les gens viennent se faire vacciner.
C'est la piste d'un règlement de compte qui est maintenant privilégié. Une enquête pour assassinat et pour tentative d'assassinat a été ouverte et confiée à la brigade criminelle.
Jean-Gabriel Bourgeois, et d'après nos informations, la victime avait déjà été impliquée dans des affaires de meurtre en bande organisée, trafic de drogue et association de malfaiteurs.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
C'est un outil de plus pour dépister le Covid, un outil qui doit permettre à chacun de lever le doute chez soi sans passer par la case PCR ou test antigénique. Les fameux autotests que l'on attendait depuis des semaines sont disponibles depuis aujourd'hui en pharmacie, mais toutes n'en ont pas reçu. Leur déploiement va prendre plusieurs jours. Après avoir passé de longues heures à sillonner la capitale, notre reporter Romain Oquet a finalement trouvé une pharmacie ayant reçu ces fameux autotests qui ne sont pas restés très longtemps sur les présentoirs.
Bah là, c'est la première fois que j'en vois, alors que c'est la 3e pharmacie que je fais.
Une pharmacie où seulement 3 boîtes ont été livrées aujourd'hui. Des autotests restés à peine 2 heures sur le présentoir de l'officine. Dans la file d'attente, Jennifer guette le dernier lot.
Je trouve ça beaucoup plus pratique de pouvoir le faire à la maison, parce que si on est contaminé et qu'on vient en pharmacie, on a la possibilité de contaminer les autres. Au moins, on a le résultat tout de suite, on n'embête personne.
Le confort de faire son test chez soi, n'importe quand, un argument qui compte aussi pour Jennifer. D'autres clients, en revanche, tiquent sur le prix, 30€ la boîte de 5 autotests. Le principe, insérer soi-même l'écouvillon dans ses 2 narines, à nouache et cas contact, et il hésite.
C'est pas évident de se mettre un truc au niveau du nez. C'est plus cette question-là. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que les résultats sont vraiment fiables? Mes proches et ma famille, je ne suis pas un danger pour eux. Ça reste quand même un acte médical.
Ici, pas de vente en libre-service. Les autotests sont derrière le comptoir, vendus avec les conseils et les instructions des pharmaciens, insiste Willy Madar, le gérant de l'officine.
Le grand risque de ces autotests, c'est que si ils sont mal conduits, ça va générer des faux négatifs. Et ça, c'est très grave. D'où l'importance d'expliquer la façon dont il faut faire ce test.
Des tests qui arriveront au compte-gouttes à la pharmacie, jusqu'à une trentaine de boîtes disponibles à la fin de la semaine.
Roman Hockey, l'autre nouveauté du jour sur le plan sanitaire, c'est la vaccination, désormais ouverte à tous les plus de 55 ans sans comorbidité. Cela représente 12 millions de personnes supplémentaires éligibles à deux vaccins, l'AstraZeneca et le Janssen du laboratoire Johnson & Johnson, dont la première livraison est attendue dans les prochains jours. L'actualité ce soir, c'est aussi ce vent de liberté en Angleterre. Le pays le plus endeuillé d'Europe, mais aussi le plus vacciné, a retrouvé aujourd'hui un semblant de vie normale. Après 3 à 4 mois de confinement selon les régions, réouverture des commerces non essentiels, des coiffeurs, des salles de sport et surtout des pubs. Théo Manval, vous êtes à Londres pour Europe 1. Réouverture uniquement en terrasse qui sont ce soir littéralement prises d'assaut, Théo.
Ah oui, la bière coule à flot, ça a commencé à dès midi à l'ouverture des pubs ici.
Freedom, liberty.
Une bière au goût de liberté pour beaucoup, après 4 mois passés enfermés.
Ah, delicious. Délicieuse, ça faisait si longtemps. Une bonne Guinness bien crémeuse, je lui mets 9 sur 10. Ça fait 2 semaines que j'ai réservé, vous voyez, c'est complet. Ça valait le coup. J'espère juste qu'on va pas nous mettre dehors trop rapidement.
Et pourtant, c'est 2 heures par groupe, hein, aux tables des terrasses pour que tout le monde ait droit à son breuvage. Ça va laisser le temps d'en écluser quelques-unes à ce groupe de retraités.
On a commandé 5 pains chacun.
J'ai déjà eu mes 2 doses de vaccin, mais ça, ce sera mon rappel.
Normalement, on se retrouvait ici 2-3 fois par semaine.
Mais là, ça fait 6 mois qu'on ne s'était pas vus. Ça manquait.
Et certains ont carrément posé leur journée pour ça, comme ces jeunes femmes, dont la soirée promet aussi d'être arrosée. Pas de couvre-feu ici, mais une idée assez originale.
On a pris un café et une pinte de Guinness. Comme ça, ça s'équilibre.
Ça fait une boisson solide pour marquer le coup. Plus besoin de manger maintenant.
Voilà, on verra combien de temps elles tiendront comme ça. Probablement de pub en pub, les retrouvailles des Londoniens avec le houblon ne font que commencer.
Merci Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres, le Royaume-Uni où depuis une semaine, seulement 3000 nouvelles contaminations en moyenne sont recensées chaque jour. C'est 10 fois plus en France. Et forcément, cela a un impact sur la saturation de nos hôpitaux. Plus de 5900 malades du Covid sont ce soir en réanimation, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la première vague il y a un an. À l'époque, on applaudissait tous les soirs les soignants pour les remercier de leur dévouement. On ne le fait plus et pourtant, ils sont plus que jamais en première ligne, fatigués, en sous-effectif et mal payés. Et bien sur ce dernier point, le comité du Ségur de la Santé s'est réuni cet après-midi autour du ministre de la Santé. Et à cette occasion, Olivier Véran a fait de nouvelles annonces concernant la rémunération des personnels soignants. Anne Le Gall.
Oui, après les 183 euros nets déjà accordés à tous les personnels des hôpitaux publics, Olivier Véran a annoncé tout à l'heure un coup de pouce supplémentaire pour revaloriser les carrières des professions paramédicales à l'hôpital. 500 000 personnes sont concernées, les infirmiers, aides-soignants, kinés, auxiliaires de puériculture, orthophonistes notamment. Avec cette nouvelle grille qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre, un infirmier généraliste débutant verra par exemple son salaire passer de 1736 euros nets par mois à 2026 euros nets mensuels et il finira sa carrière à presque 3400 euros nets. C'est 530 euros de plus qu'aujourd'hui. Au total, les revalorisations pour les différents métiers sont comprises entre 250 et 650 euros nets de plus par mois, une somme qui inclut les 183 euros déjà distribués. Budget pour cette mesure, 740 millions d'euros par an avec un objectif double, indique-t-on dans l'entourage d'Olivier Véran. Continuer d'attirer les jeunes dans les métiers paramédicaux à l'hôpital et encourager les vocations jusqu'à la fin de leur vie professionnelle.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Europe Soir. Julien Pierce.
C'est la conclusion d'un feuilleton à rebondissements et d'une âpre bataille. Veolia et Suez ont fini par s'entendre en vue d'un rapprochement. Les deux géants français de l'eau et des déchets ont enfin trouvé un accord, Aurélien Fleureau.
Oui, et c'est finalement Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui a gagné ce bras de fer entamé il y a maintenant 7 mois. Une période pendant laquelle, c'est vrai, les deux directions se sont affrontées à coups de communiqués vengeurs et d'interviews, sur Europe 1 d'ailleurs, pour défendre leurs intérêts respectifs. Cette issue semblait inéluctable, mais il fallait trouver une solution qui permette à tout le monde de sortir par le haut. Et c'est globalement le cas avec ce rapprochement à venir qui va faire de Veolia un géant mondial de la transformation écologique et qui permettra à Suez de garder la main sur ses activités en France. Notamment, un nouveau Suez sera constitué, chiffre d'affaires évalué à 7 milliards d'euros, soit tout de même 5 fois moins que celui du futur Veolia. Un accord à l'amiable donc, alors que la situation s'était dégradée après l'annonce d'une OPA hostile par Veolia en février dernier. Issue saluée par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui se réjouit que soit préservée la concurrence pour les clients et l'emploi pour les salariés. Les deux groupes se sont donnés jusqu'au 14 mai pour conclure cet accord de manière définitive.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Réunion de crise aujourd'hui au ministère de l'Agriculture après l'épisode de gel qui a décimé les cultures dans plusieurs régions. Représentants de l'arboriculture, de la viticulture, assureurs et banquiers ont discuté avec le ministre Julien Denormandie pour faire un état des lieux des pertes. Le montant de l'enveloppe des aides promises par le gouvernement n'a pas encore toutefois été arrêté. L'exécutif se résout à organiser les élections régionales en juin. Jean Castex devrait en faire l'annonce demain à l'Assemblée nationale. Un ultime élément à peser dans l'arbitrage final, les résultats de la consultation des maires lancée à la hâte vendredi soir. Plus de 24 000 édiles y ont répondu et le résultat est sans appel. 56% d'entre eux se disent favorables au maintien du scrutin tel quel, c'est-à-dire les 13 et 20 juin. Et puis notez que le Sénat, à l'instant, a adopté en première lecture le projet de loi sur le séparatisme après l'avoir nettement durci, avec notamment des mesures contre le port du voile ou le renforcement de la neutralité à l'université. Les sénateurs ont également renommé ce projet de loi, intitulé désormais projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme. Le texte va retourner désormais à l'Assemblée nationale. Venons-en maintenant à cet enlèvement hier à Haïti. 7 religieux catholiques, dont 2 Français, un prêtre et une sœur, ont été kidnappés près de la capitale, Port-au-Prince. Les ravisseurs font partie d'un gang qui réclame une rançon. Jean-Sébastien Solaini, que sait-on de ces 2 Français et des circonstances de leur enlèvement ?
Eh bien, il y a d'abord le père Michel Briand. Plus de 30 ans qu'il est missionnaire en Haïti. Il appartient à la Société des prêtres de Saint-Jacques et il a déjà été blessé par balle à Port-au-Prince il y a un peu plus de 5 ans. Son supérieur général, le père Paul Dossou, décrit un homme très investi, surnommé le curé des pauvres.
C'est un confrère vraiment qui se donne pour le pays en Haïti. C'est son pays de cœur, vraiment au niveau caritatif. Il fait beaucoup de choses, il est curé d'une paroisse, il est responsable d'une école presbytérale et tant d'autres œuvres qu'il soutient en Haïti.
Il a été enlevé avec la sœur Agnès Bordeaux, dont la congrégation est basée dans le Maine-et-Loire. Elle prenait part à la mission du prêtre depuis environ 10 ans. Sur les circonstances de l'enlèvement, peu d'éléments, si ce n'est le nom du groupe à l'origine du rapt, les 400 Mawozo, un gang qui sème la terreur dans la région de la capitale et bien connu par la police locale qui tente régulièrement des coups de filet sans parvenir réellement à l'affaiblir. Il réclame $1 million, le contact est établi, on négocie, confie le père Paul Dossou, même s'il le reconnaît. Nous n'avons pas les moyens de payer, nous ne pouvons que prier.
Jean-Sébastien Soldaini, j'ajoute qu'une enquête a été ouverte ce soir à ce sujet à Paris pour enlèvement et séquestration en bande organisée. S'agit-il de vrais ripoux ou de simples flics de terrain, peu regardant avec les procédures ? C'est ce que tente depuis ce matin de déterminer le tribunal correctionnel de Marseille. 9 ans après le scandale de la BAC Nord, 18 de ses anciens membres comparaissent pour avoir volé de la drogue et de l'argent à des dealers. Stéphane Frangy, vous avez suivi cette première journée d'audience au cours de laquelle les prévenus ont voulu avant tout laver leur honneur.
Oui, même s'ils reconnaissent des erreurs et contre-attaquent aujourd'hui en rappelant pour certains des états de service salués par leur hiérarchie, ils dénoncent en tout cas un dossier caricatural, comme l'a souligné Dominique Allegrini, un des avocats de la Défense.
Au plan administratif, mais c'est évident qu'il y a des dérapages. Mais le problème, c'est que c'est une ville de caricature et ce dossier est malheureusement un dossier de caricature. Les ripoux, les voleurs de sacoches, de shit, etc. On est face quand même à des policiers d'élite qui ont quand même tenu le haut du pavé de la police française.
Et à la barre, on découvre des trajectoires professionnelles radicalement différentes. Par exemple, l'un est aujourd'hui infirmier à la prison des Baumettes, là où d'autres ont pu reprendre une activité au sein de la police. parfois même au sein d'une brigade anticriminalité, mais le sentiment d'humiliation en tout cas est le même pour tous. L'un d'eux, par exemple, face au magistrat, se dit lucide concernant ses fautes et les condamnations qui iront avec, dans une juste mesure, espère-t-il. Ce que je souhaiterais, conclut-il, c'est la réhabilitation médiatique, qu'on nous enlève cette étiquette de ripoux abominable qu'on traîne depuis 10 ans.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. On termine avec le foot et ce match qu'attendent impatiemment tous les supporters de la capitale. J-1 avant le quart de finale retour de Ligue des Champions, PSG et Bayern Munich, ce sera cette fois au Parc des Princes. Après l'exploit de la semaine dernière et la victoire 3-2, les Parisiens vont devoir confirmer Julien Froment, mais ils devront se passer de leur capitaine.
Oui, c'était un secret de polichinelle. Même l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, cet après-midi, lors du point presse, se montrait guère optimiste. Marquinhos, victime d'une lésion à l'adducteur, est donc forfait. On devrait connaître demain avec plus de précision la durée de son indisponibilité. Ce qui n'empêche pas le club d'être ambitieux. Le défenseur est certainement capitaine demain soir au Parc des Princes. Presnel Kimpembe.
On n'y pense pas forcément, mais voilà, c'est sûr que de pouvoir éliminer le Bayern, ce serait quelque chose de grand. Surtout que c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc voilà, beaucoup de respect pour eux. Mais voilà, ce serait quand même très bien de notre part de pouvoir faire un grand match et de rentrer à la maison avec la qualification.
Paris qui se remplume hein, tout de même. Retour des deux joueurs covidés, Marco Verratti et Alessandro Florenzi. Retour également d'Abdou Diallo qui était malade. Les deux premiers débuteront sur le banc. Diallo, lui, pourrait être titulaire. Enfin, la sainte trinité du PSG. Navas dans les buts, Neymar et Kylian Mbappé devant seront là en pleine forme. Et ça, c'est peut-être la meilleure des nouvelles pour le Paris Saint-Germain.
Merci Julien Froment qui nous fera vivre demain ce PSG Bayern en direct et en intégralité. Grande soirée foot à partir de 20h aux côtés de Lionel Rosso. La météo, Anissa Haddadi, au programme demain, lumineux mais froid.
Oui, le ciel est très dégagé hein, cette nuit, Julien, et tôt demain matin, ce qui permet donc une nouvelle fois aux températures de descendre sous la barre des 0 degrés. Nous aurons beaucoup de températures négatives demain matin, je vais vous en reparler dans un instant. Dans le ciel, en Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, sur le Nivernais, le Centre-Val de Loire et la Normandie, là le ciel est un petit peu plus couvert. Attention d'ailleurs en Bourgogne, au Verglas, demain matin, en région parisienne et dans les Ardennes, nous aurons de nombreux brouillards. Tous ces brouillards et ce verglas vont très vite se dissiper. Dans l'après-midi, les nuages se dégagent et le soleil va donc s'imposer partout. Attention, dans le sud, le Mistral et la Tramontane se lèvent et soufflent jusqu'à 80-90 km dans une atmosphère très froide. Je vous le disais, généralisation des gelées matinales demain matin, avec moins 5 à Charleville-Mézières et Montluçon, moins 4 à Beauvais, moins 3 à Rouen, moins 2 degrés à Rodez et Clermont-Ferrand, nous aurons moins 1 à Châteauroux, Lille et Colmar, 0 degré à Limoges, 1 petit degré pour Paris, 3 à Cherbourg et Lyon, 6 à Perpignan et 8 pour Ajaccio. Et puis dans l'après-midi, le thermomètre a du mal à grimper avec seulement 9 à 19 degrés. Nous aurons 9 degrés à Dunkerque, 11 à Besançon, 12 degrés pour Paris, 16 à Bordeaux et 19 la maximale pour Montpellier.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamo de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Citroën a dévoilé aujourd'hui une nouvelle berline haut de gamme, la C5X. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Vincent Cobé, le directeur général de Citroën. A tout de suite sur Europe 1.
Le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamo de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street marque une pause pour commencer la semaine après ses récents records historiques.
Oui, un début de semaine en roue libre. Le Dow Jones, moins 0,16%, 33 745 points. Le Nasdaq, moins 0,36%, 13 850 points. Après, effectivement, les records de la semaine passée, l'heure est à la pause. Les valeurs de technologie reculent légèrement. On a Facebook, moins 0,3%. Apple perd 1,3%, 131,24$. Google, moins 1,1%. En fait, le marché attend les premiers résultats trimestriels des groupes américains. Ce sera pour le milieu de la semaine avec les banques, pour commencer. Il y a quand même quelques valeurs qui se distinguent. Microsoft va racheter le groupe Nuance Communication, spécialiste de l'intelligence artificielle, pour 16 milliards de dollars. Microsoft est ferme, stable à 256$. Et puis Tesla grimpe de 3,7%, 102$. Le broker Canaccord est acheteur sur Tesla et croit fermement à la puissance de sa batterie Powerwall. Uber aussi, le service de livraison à domicile s'en sort bien, plus 3% après un très gros mois de mars en raison des restrictions sanitaires dans le monde. Sur les devises, c'est plus calme, l'euro est stable, 1,19 face au dollar.
La Bourse de Paris a elle aussi débuté la semaine en douceur, en très léger repli.
Moins 0,13%, oui, pas grand-chose, hein. 6161 points, un marché très calme. Après les sommets de la fin de semaine dernière, l'heure est aussi à la pause à Paris. Les valeurs industrielles ont légèrement reculé, prise de bénéfices sur Mersenne, moins 3%, STMicro, moins 2,5%, Eramet, moins 2%, Schneider perd 1,5%, et Air France KLM recule d'1,5% aussi à 5,31€. Air France KLM qui va lancer une augmentation de capital massive pour environ 1 milliard d'euros pour renforcer sa situation financière affaiblie par la crise sanitaire internationale.
Exception du jour, le tandem Veolia-Suez qui a favorablement réagi à l'annonce de l'accord trouvé entre les deux groupes en vue de leur rapprochement.
Oui, assez logiquement, hein. Suez gagne 7,7%, Veolia plus 9,6%. Suez et Veolia ont enfin trouvé un terrain d'entente après plusieurs mois de bras de fer depuis l'été dernier. Veolia offre finalement 20,50€ par action Suez pour acheter le groupe Suez qui est valorisé 13 milliards d'euros. Toutes les procédures en cours sont suspendues. Les accords définitifs de rapprochement devraient intervenir d'ici au 14 mai. Donc les deux valeurs sont en hausse ce soir, en nette hausse. Suez plus 7,7%, Veolia plus 9,6%. Les autres places financières sont en baisse, en baisse légère de 0,3% à Bruxelles, moins 0,4% à Madrid, Amsterdam moins 0,8%. Et donc le CAC 40 en baisse de 0,13%, 6161 points.
Merci Didier Hamaud de boursier.com et à mercredi vu que demain ces grandes soirées foot sur Europe 1, PSG, Bayern Munich, quart de finale retour de Ligue des Champions qui sera à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. 22h22, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Vincent Cobé.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Citroën. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce qu'il y a une grande nouvelle. Du côté de chez Citroën, vous avez présenté aujourd'hui votre toute nouvelle berline. Elle s'appelle la C5X. Alors on aime les X hein, généralement chez Citroën. Mais déjà, est-ce que c'est vraiment une berline? Parce que ça ressemble aussi bien à un break qu'à un SUV. C'est vraiment la nouvelle berline haut de gamme de Citroën?
Je crois que vous avez un peu compris l'idée qui nous a amené à faire ce véhicule. L'idée, c'est de répondre aux attentes des clients qui font des grands trajets, qui souhaitent découvrir le monde qui nous entoure, utiliser un véhicule dans un environnement de sérénité et de technologie et qui, dans un très grand confort, leur permet d'aller très loin. Mmh. Originellement, ça s'appelait une berline. Au cours des 10 dernières années, souvent, ces clients utilisaient des SUV. Quand ils avaient une berline, ils trouvaient qu'elle était statutaire, élégante, parfois un peu basse, parfois pas très fonctionnelle. Quand ils avaient un SUV, il était fonctionnel, haut, parfois pas très confortable, parfois pas très stylé. Donc ces 5X, c'est essayer de rassembler ces mondes. Une très belle silhouette, ciselée, élégante, fluide, en même temps une grande fonctionnalité, une position un peu haute sur la route. Mmh.
Certains disent, en tout cas les spécialistes automobiles, elle est originale. Parfois une voiture originale, ça ne rencontre pas son public.
Bon, je crois qu'on peut dire surtout qu'au cours des 10-15 dernières années, dans ce qu'on appelle les grandes berlines, on a vu surtout une offre très statique, très classique se développer. Je pense que si pas mal de clients sont partis vers les SUV, c'est parce que les offres classiques n'étaient pas originales.
Mais est-ce qu'il y a encore un vrai marché pour ça? Parce que Renault n'y arrive pas sur le haut de gamme. Bon, votre petite sœur Peugeot est en train de retrouver ses lettres de noblesse en la matière. Mais les Français, vraiment, ont complètement perdu sur ce segment-là. Vous pensez qu'il y a une place, que vous pouvez la reconquérir?
Nous, ce qu'on pense de façon très forte, c'est que l'avènement du SUV a effectivement bousculé tous les codes. On est en recherche de versatilité, de multiplex, on va dire, dans l'utilisation d'une voiture. Et en même temps, on a pris l'habitude d'être plus haut sur la route. Donc ça, on ne veut pas le changer. Par contre, on pense que l'élégance, la fluidité, l'espace, puisque nous avons ici un véhicule qui a un empattement très long et donc une place au siège arrière de très grande qualité, que tout ça sont des valeurs nécessaires dans le cadre des trajets de longue durée. Et donc, il y a une place pour ce genre de véhicule.
Il y a une place donc à côté notamment des voitures allemandes. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir ces 5 précommandes à l'automne, c'est ça l'idée?
Oui, précommande au retour des vacances, vraisemblablement début octobre, et des livraisons fin d'année, début 2022.
Mais combien elle coûte? Parce que c'est bizarre, vous l'avez présentée ce matin et vous n'avez pas donné son prix.
Non, ça, on vous le dira un peu plus tard, mais elle sera, comme toute Citroën, placée de façon très compétitive dans son segment et avec un œil sur le fait de rester abordable, parce que Citroën, c'est un rêve, mais c'est un rêve que vous pouvez vous acheter.
Et c'est un rêve électrique aussi, puisque là aussi, il y aura des motorisations électriques, y compris pour une berline comme la vôtre.
Effectivement, nous l'offrirons à son lancement avec des motorisations essence et une motorisation hybride rechargeable, donc qui vous permettra d'effectuer jusqu'à 50 km en mode sans émission, 100% électrique, et puis après, sur vos longs trajets, ne pas être inquiété par l'autonomie.
On est aujourd'hui, bien évidemment, en plein troisième confinement. Vos concessions sont ouvertes, mais logiquement sur rendez-vous pour pouvoir acheter une voiture. Tout simplement, comment ça va en ce moment, dans ce contexte si particulier chez Citroën ?
Je crois que la nouvelle norme, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas de norme et que le monde qui nous entoure est très volatile. Si je vous décris la situation aujourd'hui, les marchés et donc la performance de Citroën sont bien meilleurs qu'il y a un an. Que 2020, mars, avril étaient des mois très durs. La situation actuelle est bien meilleure. Elle n'est pas encore revenue au niveau de 2019. Donc on est entre 15-20% en dessous de l'année 2019. Donc on a encore une marge de progrès pour revenir à ce qui était notre volume d'affaires et de marché habituel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une reprise des commandes. Donc on voit un certain nombre de gens venir. Les prises de commandes sont relativement fortes. Bien au-delà des livraisons. Donc on a vraiment une dynamique qui va vers le positif. Je pense qu'il n'y a pas que l'été, il y a aussi l'attente d'une sortie de cette crise, l'arrivée des beaux jours, la volonté de se déplacer, la volonté de redécouvrir un peu...
Mais ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait qu'un des éléments pour acheter une voiture, c'est la confiance. Donc c'est-à-dire que les gens ont quand même une forme de confiance en l'avenir si vous commencez à les voir revenir passer des commandes.
Pour moi, il y a trois aspects. Il y a un aspect, effectivement, confiance dans l'avenir. Et je pense qu'on les sent, il y a pas mal de prémices comme quoi on est plus près de la fin que du début de cette crise sanitaire, heureusement pour tous. La deuxième chose, c'est que de façon un peu paradoxale, ce très long confinement a permis une certaine accumulation d'économies d'un certain nombre de clients. Et puis la troisième chose, qui est quand même réelle, c'est la valeur du déplacement individuel a augmenté de par les confinements. C'est la capacité de sortir des villes, la capacité d'aller voir les gens qu'on aime. Tout ceci est revenu plus haut dans la liste des priorités.
C'est-à-dire que vous dites que d'une certaine manière, aujourd'hui, on se rend compte que ce qui nous manque, c'est de ne pas voir les gens. Ce qui nous manque, c'est de pouvoir aller peut-être pas très loin en week-end ou en vacances, mais au moins de pouvoir profiter. Donc pour cela, il faut une voiture et ça remet la voiture au centre du village, si je peux le dire ainsi.
Ah oui, je pense que c'est tout à fait vrai. On l'a vu avec beaucoup de lumière dans le lancement d'Ami l'année dernière. On le voit dans la totalité des commandes que nous passons aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, comme vous le dites très bien, je pense qu'on a accepté que les vacances en avion à 12 heures d'ici, ça va pas être pour demain. Mais par contre, la capacité d'aller au bord de la mer ou aller en famille pour un week-end est quelque chose qui a pris beaucoup de valeur, ou au moins dont on a redécouvert la valeur.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Vincent Cobé, le directeur général de Citroën. Citroën qui lance donc aujourd'hui sa toute nouvelle berline qui s'appelle la C5X. Nous, on se retrouve mercredi, puisque demain soir, grande soirée de football à suivre en intégralité sur Europe 1, mercredi.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. On vous retrouve en revanche demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous nous parlerez éducation de demain avec votre invitée, la directrice de l'école 42, l'école qui apprend notamment à coder et qui SM partout dans le monde. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux qui sont plusieurs attitrés sur les élections régionales en juin. Maintien des élections, l'exécutif vote pour, peut-on lire à la une de 20 minutes, même si en l'occurrence ce sont plutôt les maires qui ont voté pour, rappelle l'opinion. Sur les 24 000 édiles ayant participé à la consultation lancée vendredi, 56% ont répondu oui au maintien du scrutin en juin. Voilà pourquoi l'exécutif se résout à ne plus toucher au calendrier électoral et c'est tant mieux, se réjouit Rémi Godot. Les les accommodements de la République sanitaire, c'est fini, écrit l'éditorialiste qui ajoute, alors que la France donne des leçons urbi et orbi sur les jours de liberté gagnés, sur le confinement, on ne pouvait pas se retrouver seul en Europe à suspendre notre vie électorale. À l'analyse similaire dans le Figaro, il aurait été honteux que la France continue à donner des leçons de morale et de bonne politique à ses voisins en piétinant chez elle l'un des piliers fondamentaux de la démocratie, à savoir une élection, écrit Yves Tréhard, pour qui la fébrilité de la majorité présidentielle sur ce sujet trahissait la peur d'une déroute électorale bien davantage que la crainte d'une propagation virale exceptionnelle le jour du vote. Veolia crée avec Suez un géant mondial, c'est le titre à la une des Échos qui reviennent sur ces 7 mois de bataille boursière acharnée, finalement remportée par Veolia, on en parlait il y a quelques minutes dans le journal. Les Échos qui nous apprennent par ailleurs que Total lance le plus gros projet pétrolier de l'année en Ouganda, 10 milliards de dollars, plus gros investissement attendu cette année dans le secteur. Le brut sera extrait du sous-sol en Ouganda avant d'être acheminé par oléoduc jusqu'à la côte de l'océan Indien en traversant la Tanzanie. Un projet fustigé par les ONG qui dénoncent des risques de pollution et une atteinte aux droits humains dans les deux pays, rappellent les Échos.